Alors, chers amis, nous allons continuer notre pénétrante et profonde étude du Shmoné Esrei. Et je crois que nous sommes arrivés à la deuxième bénédiction. Et nous étions vers la fin. Nous avons fait remarquer qu'il est cinq fois question de la résurrection des morts dans la deuxième bénédiction. Et que donc ça avait besoin d'être élucidé. Alors, je reprends ici le texte. Voilà. Mechaye metim ata. Nous avons expliqué ça comme signifiant tu es vivificateur des morts. Qui sont les morts qui sont vivifiés par Dieu? Eh bien, il s'agit de nous. C'est-à-dire, tout ce qui est reçoit son existence du Créateur. C'est ce qu'on appelle le monothéisme intégral. N'était-ce la vie qui nous est donnée par le Créateur, nous n'existerions point. Donc on peut dire que nous sommes des morts vivifiés. Ça, c'est la première explication. Pour ce qui est du deuxième Tehillat HaMetim, Mechaye Metim Berachamim Rabim, qui donne la vie aux morts avec grande misère, avec abondance de miséricorde. Qui sont les morts qui ont besoin de miséricorde? Il s'agit des méchants, les Rechaim. Le Racha est un mort, mais on le laisse en vie pour lui laisser la possibilité de faire Teshuvah. Donc, au départ, il s'agit de quelque chose d'indifférencié, et après, c'est différencié. Mais Hayim Metim Berachamim Rabbi, il y a une différence entre les Rechaim et les Tzadikim. Et puis après, nous avons la troisième forme de résurrection des morts, c'est Umirkayem Emunato Lishene Afar, qui accomplit son alliance avec ceux qui dorment dans la poussière. Et on avait expliqué que ceux qui dorment dans la poussière, ce sont les Avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ne sont que endormis et qui ne sont pas véritablement morts. Pourquoi ils ne sont pas véritablement morts? Parce que leur descendance est vivante. Leur descendance est éternelle. Et comme ils sont des patriarches de cette descendance, donc ils sont éternels eux aussi. Donc ils ne sont en fait que endormis. Oui? J'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont donc endormis et il y a avec eux une alliance. Cette alliance est accomplie par le Créateur. C'est ça la résurrection des morts. De quelle alliance parle-t-on? Eh bien, on parle du retour en Eretz Israël. Et je crois que nous avons amené la dernière fois un texte du prophète. Et, comment c'est dit? Il faut décider. En français, on dit Ézéchiel, et en hébreu, Yehezkel. Contrairement, disons, à l'erreur courante chez les francophones, qui consiste à dire Yehezkiel, comme s'il y avait un Yud. C'est faux. C'est Yehezkel qui parle de la vision des ossements desséchés. Vous connaissez cette vision, on l'a lu la dernière fois. Le prophète voit l'assemblée d'Israël sous forme d'un amoncellement d'ossements desséchés qui sont éparpillés dans la plaine. N'est-ce pas? Quoi? Oui, il les voit éparpillés dans la plaine. Et en fait, c'est une image. Akadosh Baruch Hu révèle au prophète de quelle image il s'agit. Il s'agit du peuple d'Israël dans sa galoute. C'est-à-dire que la galoute est un grand cimetière. Et que dans ce cimetière, il y a des ossements desséchés. C'est quoi les ossements desséchés? Eh bien, ce sont les Juifs. Mais pour qui des ossements? Pour qu'il y ait des ossements, il faut d'abord qu'il y ait eu un corps, et que le corps ait été fait de chair, de nerfs, de peau. Que sont devenus, qu'est-ce que c'était la chair, et la peau, et les nerfs, et pourquoi il n'en est resté que des ossements, si on va jusqu'au bout de la représentation, n'est-ce pas? Ça, c'est la question qui est posée par le Gaon de Vilna. Il répond, c'est très simple. Dans le corps du peuple d'Israël, il y a deux sortes d'individus. Il y a les Chachamim, les rabbins, qui sont l'ossature du peuple, c'est eux le squelette. Et puis il y a les Amei Aratzot, les ignorants, la masse, c'est la chair. Et la chair est dévorée en premier par les vers. C'est quoi les vers? Dit le Gaon de Vilna dans cette image. Ce sont les nations, les persécutions que nous font les goïms. Eh bien, elles décomposent le corps d'Israël, et ceux qui sont atteints en premier, ce sont ceux qui n'ont pas de Torah. Et donc, qu'est-ce qu'il reste d'Israël pendant la galoute? Il ne reste que les rabbins et ce qui est associé aux rabbins. c'est le juif rabbinique qui fait l'essence du juif de la Galoute. Ça tourne autour de la synagogue, du Beit HaMidrash, du mikvé, de la charcuterie cachère. D'accord ? C'est autour de ça que ça tourne. C'est ça les ossements. Mais il manque ce qui était la chair vivante du peuple juif à l'époque du temple, par exemple. C'est la masse de toutes les sortes de juifs. Vous avez qu'à lire, par exemple, dans Flavius Joseph, la guerre des juifs contre les Romains. C'est passionnant. Là-bas, on voit toutes sortes de juifs, pas que des religieux. Il y a des juifs du Likoud, il y a des juifs de Avoda, il y a des gens de Shalom Arshav, il y a des assimilés, il y a un peu de tout. N'est-ce pas? Il y a des gauchistes, il y a des gens de droite, et ça, il y a tout. Il y a même des religieux. D'accord? Mais il y a des prêtres, il y a des sadducéens, il y a des pharisiens, il y a un peu de tout. D'accord? Et puis finalement, la galoute a détruit tout ça. Il n'est resté que les ossements. Mais les ossements doivent ressusciter. C'est comment qu'ils vont ressusciter? Ben, ils vont ressusciter par le retour d'Israël à sa terre. C'est ce que dit le prophète. N'est-ce pas? Donc c'est une des formes de résurrection. Une troisième forme de résurrection, la résurrection dite nationale. Et puis après, je voudrais rajouter un petit élément là-dessus. Le Gaon de Vilna rentre dans les détails. Alors, ceux qui ont une âme sensible sont priés de quitter la salle, parce que... Quoi, tu es encore là? Le Gaon de Vilna explique que, en fait, il y avait quand le corps est dans la terre, c'est vrai que la chair est décomposée, mais il reste quelque chose, il reste un squelette. Et le squelette, au début, il est entier. Dit le Gaon de Vilna, c'est vrai. Les Chachamim étaient tous au même endroit, ils étaient à Babylone. Ils étaient donc en Irak. Et donc le corps était entier, bien que mort. Et puis après, les ossements ont commencé à se disloquer. Et il y a eu différents centres du judaïsme un peu dispersés un peu dans le monde. Il y avait l'Espagne, l'Afrique du Nord, la France, l'Allemagne. Il y avait des juifs un peu partout, au Yémen. C'est-à-dire, ça a commencé, disons, les ossements ont commencé à se séparer. Mais chaque ossement était un bel ossement, bien entier. Alors, il y a une partie du peuple juif qui a vu l'exil du tibia. Une autre qui a vu l'exil du crâne, de la mâchoire, etc. Parfois des dents. C'est ça ? Donc, chaque communauté d'Israël est un ossement de plus ou moins grande importance du squelette d'Israël. Tout ça, c'est le Gaon de Vilna, c'est pas moi. Et puis après, il dit, mais il y a un problème, dit-il, c'est qu'il vient un moment où même les ossements se putréfient. Et il ne reste plus... Quoi? Pas du tout. Enfin, presque. Il ne reste plus que un amas, je ne vais pas être méchant, de pourriture. C'est ça, et le Gaon de Vilna dit, et c'est à cela que nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est l'époque du Gaon de Vilna. Pourquoi est-ce que le Gaon de Vilna considère qu'il est arrivé au plus bas? Parce que le prophète nous dit, Hitna'ari me'afar kumi shevi Yerushalayim. C'est-à-dire, remue-toi de la terre, de la poussière, relève-toi, Jérusalem. Et le Gaon de Vilna dit, c'est à l'époque où je vis que c'est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passait à l'époque du Gaon de Vilna? Assimilation, pas si forte que ça. C'était encore la fin du XVIIIe siècle. L'assimilation sur grande échelle, c'est 19e et 20e siècle.
Des pogroms.
Il y a toujours eu des pogroms un peu partout. Mais par rapport à la Shoah, par exemple,
hein? On n'écoute pas les paroles des rabbins.
On n'écoute pas les rabbins. Jamais on les a écoutés. Il y a autre chose. C'était la perte de l'autonomie politique des juifs. Oui, effectivement. Il y avait, à l'époque du Deuxième Temple, nous avions des rois. C'était les Hashmonaïm, les Maccabées. Après les Hashmonaïm, nous avions eu des rois de moins bonne qualité, mais ça existait quand même, c'était la dynastie hérodienne. N'est-ce pas? Et puis après, il y a eu la destruction du temple. Les Juifs ont perdu leur indépendance, mais il y avait quand même une indépendance relative à travers ce qu'on appelait la Nessiout, le prince. Les princes qui étaient descendants de Hillel et qui dirigeaient le Sanhédrin et qui avaient une autorité politique qui était accordée par les empereurs romains, qui fait que, par exemple, quelqu'un comme Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, pouvait lever des impôts, il avait une police à lui. N'est-ce pas? Donc, il y avait encore une sorte de juridiction autonome au sein de l'Empire romain qui était accordée aux princes des Juifs. Ça a duré jusqu'à quand? Comment? Non, jusqu'à Justinien. Justinien, le méchant, qui a aboli, comment? Justinien, ça fait dans les environs de 345, quelque chose de ce genre, mais un peu plus tard, je crois. Ce Justinien en question, c'est lui qui a aboli le principat. La Nessiout et le Sanhédrin, tout ça a été aboli de son temps. Et alors? Et alors? Il est resté encore quelque chose, c'est l'exilarque. Est-ce que c'est l'exilarque? L'exilarque. En hébreu, Rosh Hagola, en araméen, Resh Galuta. En français, exilarque. C'était le roi des Juifs, non pas en Eretz Israël, mais en Babylonie. Il y avait, sous la domination perse, il y avait un personnage de la dynastie du roi David qui était nommé pour diriger les Juifs et qui, du point de vue de la halakha, avait le statut du roi d'Israël. Oui, absolument. Il avait même le droit de mettre à mort, si c'était nécessaire, ou moyen de lever des impôts, etc. Mais c'était sous autorité des empereurs perses. Ce qui a duré jusqu'à la chute de l'Empire perse, qui a été détruit par les Arabes. Les Arabes se sont emparés de ce qui restait de l'Empire byzantin et de l'Empire perse. Et alors, à Bagdad, c'est là que régnait, sous l'autorité du calife, le Rosh Hagola, qui en fait était le roi des Juifs depuis l'océan Atlantique jusqu'aux Indes. Oui ? Il n'y avait qu'un seul Rosh Hagola. Ce qu'on dit du Ben Yisrael, c'est quelque chose d'honorifique. Le titre de Rosh Hagola, de Resh Galuta, c'est honorifique, ça ne veut rien dire du tout. Oui ? Exactement. Il ne pouvait pas remplacer le calife, par exemple. Il ne pouvait pas être calife à la place du calife. Ça, ce n'était pas bien, comme on dit en anglais. Et donc, oui. Mais il était quand même, il avait une autorité. C'est-à-dire que l'exil était un exil. C'était un exilarque, c'est-à-dire un chef d'Israël dans l'exil. Oui, on connaît les noms, etc. Et nous avons des listes de ces rois. Et ça a duré jusqu'en? Jusqu'à Léon Blum, tu dis? Tu dis que d'après toi, Léon Blum était un exilarque sous domination musulmane nommé par le calife. Je pense que c'est faux.
Il était exilarque sous domination française.
Absolument pas. Léon Blum était président du conseil français. Il était de confession israélite, mais c'est tout à fait autre chose. Non, ça a duré jusqu'en 1054. Jusqu'en 1054. En 1054, eh bien, la fonction du Rosh Hagola a été abolie. Et il n'en est resté quand même que quelques petites émanations. C'est qu'à ce moment-là, ont été fondées de grandes communautés, en Espagne par exemple, et en Égypte, et même à Babylone, il y avait encore une communauté. Il y avait non plus un Rosh Hagola, mais il y avait ce qu'on appelait des Negidim. Le Nagid, si vous voulez, c'est une forme de Rosh Hagola locale. Par exemple, Maïmonide était Nagid d'Égypte. Il était nommé par Salah ed-Din, appelé en français Saladin. Et de même, il y avait des Negidim en Espagne, par exemple, Rabbi Shmuel Anagid. Ou bien, Rabbi Shmuel Anagid n'était pas n'importe qui. Il était le premier ministre de Abd al-Rahman 2. Il faisait, c'est lui qui partait en guerre, il faisait la guerre au nom de Abdurrahman. C'est lui qui dirigeait ses finances. Il était à part ça un médecin, poète, et à part ça c'était un grand talmudiste et philosophe. Et puis il y avait également donc une sorte d'autonomie politique morcelée. Vous voyez exactement ce que dit le Gaon de Vilna. Les ossements ont commencé à se séparer, mais ça continue à exister quand même. Et puis, ça a continué comme ça, jusqu'à... Oui.
Ils sont nommés par qui
Eh bien, par le chef politique local.
Donc, tous les poètes ministres sont juifs?
Non, ça n'a rien à voir. Il s'agit d'une auto... Il faut bien comprendre une chose. Jusqu'à la Révolution française, les juifs de France n'étaient pas considérés comme des Français. Ils étaient des juifs, c'est-à-dire des ressortissants du royaume de Juda, sous protection du roi de France. Vous comprenez ? Et le cas éventuel, le roi de France pouvait nommer un juif à la tête des juifs. Mais ça n'a rien à voir avec le pouvoir en France. Tu comprends ? Et donc ça a duré tout ça jusqu'à l'exil d'Espagne. Ça nous amène en 1492. Hein ? 1492. Marignan. 1515, très bien. La bataille d'Azincourt, bon. En tout cas, en 1492, donc, il y a la destruction de ce qui restait de l'autonomie juive, de la splendeur d'Israël. Mais, très rapidement, s'est fondée en Europe orientale une autonomie juive qu'on appelait le Conseil des quatre pays. En hébreu, Vaad Arba Aratzot, qui a été nommé par les rois de Pologne, et qui avait autorité sur tous les juifs de la Grande Pologne, Petite Pologne, Lituanie et Volhynie, ce qui correspondait à des millions de juifs. Il y avait une sorte de gouvernement autonome des juifs. Et donc, on peut dire qu'une certaine manière, l'exil n'avait pas encore commencé. Mais, il y a eu ce qu'on appelait le démembrement de la Pologne. Vous avez étudié ces choses-là, n'est-ce pas? Il y a eu jusqu'à la disparition de la Pologne aux environs de 1773, un truc de ce genre. Je ne sais plus exactement la date. Et à partir de ce moment-là, donc, disparaît définitivement l'autonomie politique et juridique des Juifs. Ça ne reste que dans quelques petits pays arabes. Par exemple, au Maroc, il y avait une indépendance... juridique, mais enfin, les Juifs étaient dans un tel état qu'on ne pouvait vraiment pas appeler ça la gloire. Et puis, donc, c'est à ce moment-là où disparaît l'autonomie politique des Juifs que le Gaon de Vilna écrit ce qu'il écrit. Le démembrement de la Pologne, ce n'est pas la catastrophe. C'est la disparition de l'autonomie juive. Ce qui, pour la Torah, est très mauvais. Étant donné que le Gaon de Vilna était fidèle à la Torah, donc il pensait cela aussi. Et c'est-à-dire que pour le Gaon de Vilna, il est évident que la disparition de l'indépendance, dans le sens absolu, politique du terme, c'est ça l'exil. Et c'est à peu près, un peu après ce moment-là, que commence ce qu'on appelle le processus de l'émancipation des Juifs par la Révolution française et la suite, et l'Empire, etc. Maintenant, l'émancipation des Juifs, du point de vue des Juifs, ça c'est la disparition totale. Pour une raison très simple, c'est que jusqu'à la Révolution française, les Juifs n'étaient pas considérés comme des Français, ni comme des Anglais, ni comme des Allemands. Ils étaient considérés comme des Juifs. Et le prix à payer pour arriver à l'égalité des droits, c'était d'adopter les nationalités des pays dans lesquels on vivait, et de renoncer donc à l'indépendance nationale, c'est-à-dire que la nation d'Israël se suicidait, mais elle restait une religion, une confession, ce qu'on appelle la confession mosaïque. Une confession, c'est, ça veut dire une religion, mais c'est plus poétique. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit qu'en France, il y a la confession mosaïque, mais qu'en Israël, il y a une mosaïque de confession. Voilà. Tu as compris ? Ça viendra. Oui. Bon, ça viendra. Oui. Ça viendra. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que pour les, du point de vue de l'esprit de la Torah, c'est ce qu'on appelle un suicide collectif. Mais, d'un autre côté, les Juifs étaient intéressés par ça. Vous savez pourquoi ? C'était pour des raisons d'argent. Ça permettait de faire beaucoup d'argent. Le pognon, c'est ça, oui. Et donc, il y avait... je vais vous raconter une histoire pas très jolie. Vous voulez une histoire pas très jolie ?
Oui.
C'est pas tellement, disons, à l'honneur des Juifs. Mais enfin, que faire ? Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu tout un débat pour savoir s'il fallait donner l'égalité des droits aux Juifs. Et à l'Assemblée nationale, il y en a qui disaient, bon, ben, tous les hommes sont égaux, donc les Juifs aussi sont égaux. Et d'autres disaient, mais ça va pas, les Juifs sont sales, ignorants, pervers, etc. Vous n'avez quand même pas donné l'égalité des droits à cette frange humaine. Et donc, hein, il y a eu tout un débat, puis ce qu'ont fait les Juifs séfarades de la région de Bordeaux, ils sont allés à l'Assemblée nationale pour expliquer que tout ce que vous disiez là sur les Juifs, c'est vrai de nos frères ashkénazes. Mais ceux qui sont en Alsace, en Lorraine, etc., mais ce n'est pas vrai des Juifs séfarades, et donc nous demandons que pour les Juifs séfarades, on donne l'égalité des droits et pas aux Ashkénazes. Alors maintenant, il faut savoir une chose qui est la raison véritable de cette requête, ce n'était pas du tout pour des raisons de civilisation ou quoi que ce soit, c'était pour des raisons monétaires. C'est-à-dire qu'ils étaient en rivalité de commerce, c'est-à-dire pour des raisons commerciales. Il y avait des commerciales entre les Juifs Ashkénazes et les Juifs séfarades en France, et donc c'était une occasion de... Voilà, d'accord. Donc c'est pas une histoire. Finalement, l'égalité des droits a été accordée à tous les Juifs de France, mais enfin ça a mis du temps. Oui.
Mais les Juifs au Moyen Âge, c'était beaucoup plus ignorant, puisqu'ils servaient de, vu que l'Église n'avait pas touché à l'argent, c'est les Juifs qui servaient de.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais avoir l'égalité des droits, c'était encore mieux.
Hein?
Faire de l'argent avec l'égalité des droits, c'est encore mieux.
Ouais.
Voilà, c'était ça le truc. Voilà. Donc voilà. Pour dire que chez les Juifs, il y a des problèmes. Mais je vous demande, par respect pour notre nation, de ne pas révéler à l'extérieur ce que je viens de vous dire. D'accord. Y compris pour les spectateurs sur Internet, ne le révélez pas, je vous en prie. Oui ? Alors pourquoi est-ce qu'on a fait semblant ? Est-ce qu'on ne pouvait pas dire à Napoléon, quand Napoléon a demandé que les Juifs fassent ce qu'on appelle le Grand Sanhédrin, qui réunissait les rabbins de France, d'Allemagne et d'Italie, alors, on ne pouvait quand même pas dire décemment, sire, nous sommes d'accord jusqu'en 1948. D'accord ? Alors, on a fait semblant d'accepter. C'est-à-dire, on a menti au goyim, et puis après, on a commencé à croire à nos propres mensonges. À tel point que finalement, on a pu se dire, moi, mais je suis français, monsieur, et de confession mosaïque. Je respecte le culte israélite. Pourquoi est-ce que certains ont décidé de rester juifs ? C'était impossible. Il faut voir que la conjoncture de l'époque ne rendait pas possible cette idée de refuser. On ne pouvait pas refuser. Maintenant, il y a eu effectivement, dans certains pays d'Europe, il y a eu des réticences, entre autres chez les juifs d'Italie. Mais ça a été très rapidement balayé. Chez les rabbinim aussi. Chez les juifs rabbins. Non, Chabad à l'époque c'était bon le Rav Schneerson, c'était le Baal HaTanya, c'était en Russie ça, en Russie. Il n'y avait pas là-bas d'émancipation. Alors effectivement les armées napoléoniennes sont arrivées dans le coin, ils n'ont pas eu le temps là-bas de faire de l'émancipation, zéro, niet, gurnicht, hein. Oui, alors le Baal HaTanya effectivement considérait l'émancipation comme un danger pour les Juifs. Donc, il y avait tout un débat entre les rabbins pour savoir pour qui prier. Prier pour le succès du tsar ou le succès de Napoléon. Oui. Oui ?
En fait, là où c'était mieux, c'était vraiment dans les pays arabes.
Non, pas du tout mieux. Non, non, non. Alors, dans les pays arabes, c'était le pire de tout. Il y avait une humiliation, un abaissement, un avilissement tel que, en fait, nulle part c'était bien. Ce qu'il fallait faire, donc, c'était le moment de rentrer en Eretz Israël. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'à la même époque, il y avait un général français du nom de Bonaparte qui a été envoyé en 1799 faire la conquête de l'Égypte. Donc ça, il a fait la conquête de l'Égypte et d'une partie des Eretz Israël de l'époque. Il est arrivé jusqu'à Akko. À Akko, il s'est fait arrêter. Ses armées n'ont pas pu aller plus loin. il y a eu la résistance de la co-organisée par un juif du nom de Haïm Farhi. Oui, pour les Turcs, c'est lui qui... Jusqu'à ce jour, on voit encore les canons qui étaient sur la muraille de Hako, qui ont lutté contre les Français. Et tout ça, c'était dirigé par Haïm Farhi, qui était le chef du gouvernement du prince local, qui s'appelait Ahmad al-Jazar. Ahmad al-Jazar, ça veut dire le Ahmad, le boucher. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait le boucher? Parce que il tuait pas mal de monde. Et après avoir repoussé Napoléon, pour remercier Haïm Farhi, il lui a coupé le nez et les oreilles. Oui. Donc, on voit bien que... Oui.
Il y a un rapport avec Ahmadinejad?
Non. Ça n'a rien à voir avec Ahmadinejad. Mais il s'appelait Ahmad al-Jazar. Jusqu'à ce jour, on voit sa mosquée, qui est une très belle mosquée à Akko. Si vous passez un jour là-bas, bien, allez voir la mosquée de Ahmad al-Jazar. Voilà. Bon. Ça, c'est tout à fait au passage. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'en 1799, donc, un général français du nom de Bonaparte est envoyé dans la région et il fait sortir une déclaration. Quand il arrive à Jaffa, dans le coin, dans la région, il lance une déclaration publiée dans le Moniteur, à l'époque, qui était le journal officiel de l'époque, dans lequel il appelle les Juifs à rétablir leur antique indépendance à Jérusalem. Absolument. Napoléon. Par la suite, ça a été nié, etc. Mais enfin, nous avons des traces historiques de la véracité de cette chose-là. Et donc, ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où le squelette d'Israël se décompose, que commence la résurrection des morts. Quelle résurrection? La résurrection nationale. C'est le moment d'envisager le retour. Effectivement, il y a eu pas mal de penseurs qui ont considéré l'émancipation. Certains ont considéré l'émancipation comme une manière de s'assimiler, et d'autres ont considéré que c'était le moment justement de refonder notre antique gloire. Alors il y a eu des penseurs qui ont pensé dans ce sens-là, tels que Moses Hess et Salvador, et puis il y a eu des rabbins aussi, le Rav Kalischer, le Rav Guttmacher, et puis après vous avez le Rav Yehuda Al-Kalai, tout ça ce qu'on appelle les précurseurs du sionisme. Après vous avez eu un mouvement qui s'appelait Chovevet Zion ou Chibat Zion, en Russie et Pologne, tsariste, et puis après, ça est arrivé jusqu'au sionisme politique avec Binyamin Zev Theodor Herzl. Et après, c'est arrivé jusqu'à l'État d'Israël et aux élections dernières. Alors pour l'instant, donc, le représentant, si vous voulez, de l'autonomie d'Israël, c'est Binyamin Netanyahou. Est-ce que ça va continuer ou pas? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? À savoir. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que la résurrection des morts dont il est question ici, c'est le sionisme. Mekayem et Munato, Lichene, Afa. Jusque-là, vous avez compris? Bon. Maintenant, nous avons une quatrième résurrection des morts. C'est Michamocha Baal Gevurot, je relis dans le texte, qui est comme toi possesseur des capacités, ou Mi Domelar, qui te ressemble? C'est-à-dire, c'est rhétorique, c'est-à-dire, personne ne te ressemble. Mais Taesh, Melech, Memit Umhaye, roi, qui met à mort et qui fait vivre, ou Matzmiach Yeshua, et qui fait croître la délivrance. Alors, c'est quoi cette histoire? Le retour d'Israël, on en a déjà parlé. Matzmiach Yeshua, il fait croître la délivrance. Entre les deux, il y a un événement, Memitum Haye. Il met à mort et fait vivre. Ah bon, de quoi est-ce qu'il parle? Mais pourquoi à ce moment-là? Il met à mort et il fait vivre. Hein? Avant la délivrance, il y a un événement dans lequel certains meurent et certains vivent. Avant la délivrance.
C'est pas le processus.
C'est pas le processus. Vous écrivez Matzmiach Yeshua, c'est ça le processus. C'est quoi Memitum Chaye?
Toute l'histoire.
Toute l'histoire. Mais alors pourquoi est-ce que c'est après qu'il a commencé à ramener les exilés? C'est la Shoah, exactement. Il y a un moment où il y a un tri qui se fait. Certains sont emportés et certains sont épargnés. Memit ou Mhaïe? Comment? Non, ça s'est passé déjà. On est après. On dit après. La Shoah, non. L'assimilation, ce n'est pas la mort. C'est l'assimilation. C'est soit qu'il y a soit l'assimilation, soit on s'assimile à Sion. Tu as compris, au fait? Ah, celle-là, ça a été. D'accord. L'autre, c'était quoi? Bon, ça, on en parlera une autre fois. Mosaïque de confession. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais, personne n'est parfait. Moi aussi, j'ai mes problèmes. T'as beau. Melech Mevitou Mahaye. Matzmiach Yeshua. Donc, ça, c'est la quatrième résurrection des morts, qui est assez dramatique. Et après, vous avez une cinquième citation. Veneeman ata leha hayot mitim. Tu es fidèle, tu es fiable pour faire revivre les morts. De quelle résurrection des morts on parle là?
La vraie.
La vraie. Enfin, il faut bien en parler à un moment ou à un autre. Leha hayot, c'est un, il y a un lamed, n'est-ce pas? Leha hayot, il y a un lamed, ce qui veut dire l'infinitif en hébreu. N'est-ce pas? L'infinitif est toujours sous une forme de futur. Leha hayot. D'ailleurs, il y a quelque chose de semblable en anglais. En anglais, l'infinitif est toujours précédé du mot to. To eat, to go, to make, n'est-ce pas? C'est un hébraïsme. C'est un hébraïsme. Parce qu'en hébreu, on dit le'echol, lishmor, la'asof. C'est-à-dire, le lamed signifie une direction vers un futur. Et bien, en anglais aussi, le verbe signifie faire dans le futur. Tout. Tout, ça veut dire, c'est en direction de. Contrairement à l'infinitif en français, où c'est un présent. Manger, chanter, boire, danser, fumer, etc. Étudier, prier, etc. D'accord? Donc, vous avez ici Léa Hayot, signifie que c'est dans le futur. Léa Hayot Metim, c'est la résurrection des morts individuels qui vient dans l'avenir. Donc, vous avez pour l'instant cinq résurrections des morts. Et après, dans la bénédiction de clôture, Baruch Ata Hashem, Mechaye HaMetim. De quelle résurrection des morts on parle? De tout ensemble. C'est une récapitulation. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, on a parlé ici de la résurrection des morts. Voilà. Très bien. En tant que capacité. Donc, on avait vu que la deuxième bénédiction vient répondre à la question « Quoi ?» N'est-ce pas? La première répond à la question « Qui ?» La deuxième « Quoi ?» À qui la prière est-elle adressée? La réponse, au Dieu des Avot. Et qu'est-ce qu'il peut me donner? Gevurot. Et pourquoi le fait-il? Ben, c'est pour ça qu'il y a la troisième bénédiction, parce qu'il est saint et qu'il veut sanctifier son nom. C'est pour ça que nous disons aussi la troisième beracha. Ata kadosh. Hein? On va faire. Doucement. Ata kadosh. Tu es saint. Veshimcha kadosh. Et ton nom est saint. C'est quoi ton nom? Ton nom, ça veut dire ta réputation. Ta manifestation. Oui, quoi?
Ça veut pas dire dans le sens tu es complètement séparé de nous.
Genre. Alors justement, le problème, s'il est complètement séparé de nous, alors c'est très bien, mais dans ce cas-là, on n'a rien à lui dire. Est-ce que tu as remarqué que cette bénédiction est la troisième?
Ouais.
Comment est-ce qu'un philosophe aurait fait la prière? Par quelle bénédiction il aurait commencé? Par la troisième. Et comment il aurait continué? Il n'aurait pas continué. C'est-à-dire, c'est le Kuzari qui dit ça. C'est-à-dire, si on avait commencé par Ata Kadosh, c'est-à-dire, on aurait pris conscience d'abord de la totale transcendance du Créateur, donc on n'a rien à lui dire. Et la prière s'interrompt. Tandis que ce que nous faisons là, nous parlons d'abord de la révélation à travers les Avot et ses manifestations en tant que résurrecteur des morts. Et après, on dit, oui, mais bien qu'il se manifeste, il reste dans sa transcendance. C'est pour ça qu'on fait dans cet ordre-là. Ata Kadosh, tu es saint. Alors c'est vrai que tu es séparé, parce que Kadosh veut dire séparé. Veshimcha Kadosh, mais ta réputation aussi. C'est-à-dire que, en fait, tu es intéressé à ce que d'autres soient des Kedoshim comme toi. Vous avez vu dans le livre de Vaïkra, au chapitre 19, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Kedoshim tiyu, ki Kadosh ani. Soyez saints parce que je suis saint. Ah bon? Pourquoi? Il est saint, c'est très bien, mais pourquoi est-ce que moi je dois être saint? Parce que lui est saint. Pour qu'on puisse...
C'est
pour qu'on puisse jouer ensemble. C'est comme si, oui, c'est comme si le Créateur disait, voilà, je suis seul. Je suis le seul à être saint. Quelqu'un m'entend ? Ah bon. Alors, soyez saints, vous aussi, comme ça, nous pourrons jouer ensemble. C'est ça ? C'est une sorte d'amusement divin.
Si on est fait à l'image de Dieu, aucun rapport.
Non, mais pourquoi il dit soyez saints ? Si on est fait à l'image de Dieu, donc on est déjà saints. C'est ça ? Donc, soyez saints est une injonction. Il faut devenir saints. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une rencontre possible entre le Créateur et la créature, il faut qu'il y ait un lieu de rencontre. Ce lieu de rencontre, c'est la sainteté.
Pourquoi
tu n'as pas fait ça tout de suite ? Est-ce que tu as une réponse ? Tu as déjà une question. C'est déjà pas mal. Eh bien, il ne nous a pas fait ça tout de suite parce qu'il veut qu'on participe. C'est pour nous donner un mérite. Ben oui. C'est comme, par exemple, si un enfant est dans le ventre de sa mère. Il reçoit tout, n'est-ce pas ? Donc, il n'est pas vivant. À partir du moment où il sort, la première respiration lui inspire l'expression de n'est-ce pas ? C'est le premier cri, c'est la première fois qu'il respire par lui-même. Et alors là, il a une relation avec sa maman. D'accord ? Alors là, il va demander instamment, changez-moi mon linge, je veux du lolo, je veux de la musique et un peu de chaleur et un balancement.
Hein ?
Voilà. Hein ? Du lolo ? Le lolo, ça peut être un biberon, ça peut être le sein, ça peut être tas de choses. D'accord ? Mais en tout cas, il demande quelque chose. Il entretient un dialogue. Et ce dialogue est très important parce que il va continuer à hurler tant qu'il n'a pas reçu ce qu'il désire. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est dictatorial. Ça ? Et donc, il faut commencer à entretenir des rapports, discuter, syndicats, tout ça. Ouais. Oui ? Pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'une rencontre avec nous ? Qui te dit qu'il a besoin ? Parce qu'il veut une rencontre avec nous. Il y a une différence entre vouloir et avoir besoin. Chez nous autres, les hommes, vouloir signifie avoir besoin. Mais chez le Créateur, ce n'est pas forcément identique. Il peut avoir vouloir sans qu'il y ait besoin. Ou plus précisément, il veut avoir besoin. Je vais préciser la chose. Il y a trois opinions chez les hommes par rapport à cette question. Il y a l'opinion des philosophes, il y a l'opinion des idolâtres et l'opinion de la Torah. J'anticipe tout de suite, je me dis que c'est la Torah qui a raison. Les idolâtres, les païens, pensent que Dieu a besoin de l'homme. Il a besoin d'être alimenté, les dieux ont besoin de sacrifices. Si on ne fait pas de sacrifices, ils se mettent en colère, il y a beaucoup de désordre sur Terre. D'accord ? Donc on a intérêt à être au service des dieux ou de Dieu, parce que sinon ça ira mal. N'est-ce pas ? C'est comme si vous avez un monstre dans la maison, il faut lui absolument donner de la chair crue, parce que sinon il va bouffer tout. D'accord ? C'est ça la relation du païen envers Dieu. Donc Dieu a besoin de l'homme. D'une certaine manière, on peut dire que donc Dieu est dépendant. Ce qui est intolérable. Les philosophes, qui se disent, mais enfin ça ne va pas la tête, Dieu n'a besoin de personne, puisqu'il est l'auteur de tout. Donc il n'a besoin de personne. Dieu s'en fiche pas mal de toi, disent les philosophes. Il n'a pas besoin de toi, il t'ignore. C'est ça, c'est ce que disent les philosophes. La Torah, qui elle a toujours raison, dit que la vérité est faite de trois paragraphes, qui sont le premier, le deuxième et le troisième. Le premier est que Dieu n'a pas besoin de nous. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est l'opinion des philosophes. Le deuxième paragraphe, c'est... Non. Mais il a voulu avoir besoin de nous. C'est... Donc il a besoin de nous. Ça vous rappelle quelque chose ? Comme les idolâtres. Mais attention. Dans cette triple profession de foi, il y a quelque chose de très important. D'une part, Dieu n'est pas abaissé, puisqu'en vérité, il n'a pas besoin de nous. Mais d'autre part, il n'a pas d'éloignement parce qu'il a voulu avoir besoin de nous. Et donc, il a vraiment besoin de nous, mais ce n'est pas une chute. Parce qu'il pourrait à tout moment cesser de vouloir avoir besoin de nous. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a voulu avoir besoin ? Eh bien, il a voulu avoir besoin, et ça, c'est un sous-paragraphe de B. Il a voulu avoir besoin de nous pour notre bien. pour que nous ayons un mérite de participer à sa, manifestation. Je vais vous donner pour ça une parabole. Il y a une maman qui est en train de préparer le Shabbat. Et puis, il y a un petit gosse qui lui tourne, qui s'accroche à sa jupe, qui lui casse les pieds. « Maman, je m'ennuie, gna 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 gna. » Que lui dit la maman ? «
Je veux jouer. »
Eh bien, non, je veux pas jouer. Alors, que lui dit la maman ? Eh bien, c'est toi qui vas avoir l'honneur d'éplucher les pommes de terre pour la tfina, ou pour le tchoul, peu importe. C'est toi qui vas éplucher les pommes de terre. Le gosse a les yeux qui brillent, tout content. C'est lui qui a fait le Shabbat. Il a épluché les pommes de terre, plus ou moins. Enfin, disons, on a un peu aidé. Parce que... Enfin, il a quand même... Hein ? Oui, mais enfin, il est tout content. Il a fait quelque chose. Et puis le Shabbat, il dira, ben, tout ça, vous savez, c'est moi qui a préparé. Il y a les pommes de terre. Alors maintenant, la maman en question...
Après ça, c'est dégueulasse.
Ah, une seconde. Maintenant, quand la maman en question prépare son Shabbat, c'est vrai qu'elle n'a pas besoin du gosse pour lui éplucher les pommes de terre. Mais, maintenant qu'elle a demandé au gosse de faire les pommes de terre, elle va faire le planning de son Shabbat en tenant compte du fait que les pommes de terre seront épluchées par le petit gosse. Ouais, qu'on peut appeler comment ? Johan, par exemple. D'accord ? C'est un nom populaire chez les juifs en France. Hein ? Ton petit frère s'appelle Johan ? C'est extraordinaire. Non, vraiment ? Ça prouve la providence. Hein.
Il y en a bien.
Voilà. Oui. Bon. En tout cas, oui, si vous me laissez continuer. Et donc, on a laissé le gosse prendre de l'importance, mais maintenant, la maman a véritablement besoin de l'épluchage des pommes de terre par le gosse. Parce qu'elle compte sur lui maintenant. Et donc s'il ne le fait pas, ou s'il le fait mal, il y aura un dommage dans le Shabbat planifié par la maman. Eh bien c'est la même chose. Le Créateur n'a pas vraiment besoin de nous. Mais il a voulu avoir besoin de nous. Donc il ne fait pas semblant. Il a vraiment besoin de nous. Il a voulu ça pour que nous ayons un mérite. C'est-à-dire ça fait partie de ce qu'on appelle la mida du chesed, la générosité, la bonté du Créateur. C'est ça la créature. Créer, ça veut dire donner gratuitement l'être à un autre. Et pour que l'être soit vraiment un être, ben il faut le mériter. Parce que si je ne suis pas l'auteur de mon être, en fait je suis dans une dépendance totale. Imaginez quelqu'un, par exemple un clochard, à qui on lui jette à la gueule $1 milliard. Vous l'avez tué. Non seulement à cause du poids du $1 milliard, mais également parce que ce qu'il va faire, il va s'en servir pour acheter une meilleure boisson ou trouver une meilleure bouche d'aération du métro. D'accord ? C'est-à-dire, finalement, on n'aura pas fait grand-chose. Mais si on lui donne un prêt de $2000 pour ouvrir un stand au marché pour vendre des tomates et rembourser sa dette, eh bien, on l'aura rétabli dans sa dignité. La participation à l'élaboration de mon être, c'est ça qui me donne mon être, véritablement. Sinon, je suis une marionnette. Donc, ça explique pourquoi le Créateur a voulu avoir besoin de nous. Et c'est pas qu'il en a besoin. C'est bien clair ? Exactement, exactement. Il a voulu faire du reset avec nous, et donc, nous participons, et nous sommes donc des kedoshim pour pouvoir jouer avec lui. Il cherche un partenaire. Voilà. Alors, il y en a qui savent jouer aux échecs, mais ils n'ont personne qui sait jouer aux échecs. Alors, ils apprennent aux autres à jouer aux échecs pour pouvoir jouer ensemble. N'est-ce pas ? Cette expression de jouer se trouve, par exemple, d'amusement, se trouve chez les chachamim. On dit que Dieu s'amuse avec les âmes des tzadikim dans le Gan Eden. Oui.
Alors, on évolue pour justement rejoindre Dieu. Et est-ce qu'il y a un stade où on ne peut plus évoluer ou il y a un moment où. Est-ce qu'il y a un moment où on est obligé de stopper ? Est-ce que c'est Dieu ?
C'est-à-dire que l'ascension vers le divin, ça ressemble à une échelle en Belgique, d'après toi.
Mais non, parce que j'apprends à l'homme de faire des échecs, il devient meilleur que moi. Il ne peut plus jouer avec moi.
Comment ?
J'apprends à jouer des jeux aux échecs.
J'ai compris. Donc tu dis que l'ascension vers le divin ressemble à une échelle en Belgique.
Je ne connais pas la Belgique.
Sur le dernier échelon des échelles en Belgique, il y a écrit stop. Ça. Et donc. Oui. Quoi, Fia ? Oui. Bon, alors ce que tu dis, c'est donc en fait, il y a un arrêt. Alors là, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Le délai. Voilà. Très bon. Bon. Génial. Bon, ben, on va expliquer à noter les spectateurs qui ne savent pas ce qui s'est passé, qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui a compris la vanne avec un certain retard. Oui. Oui. D'accord. Bon. Donc, ça va mieux là maintenant ? Voilà. Bon, allez c'est... Tu auras des choses à raconter. Voilà. Non, mais c'est, en fait, tu comprends tout ça, c'est pour te convaincre de rester en Eretz Israël, parce que sinon. Bon. Bon, maintenant, donc, où est-ce qu'on en était ? Alors, la question de savoir, est-ce que ça stoppe ? La réponse est que ça ressemble à l'amour. Dans l'amour, il y a un rapprochement et un éloignement. C'est-à-dire, les gens qui s'aiment se rapprochent, mais se séparent pour que l'amour puisse continuer. Parce que. Si, par exemple, on embrasse quelqu'un, il y a un moment où il est dérangeant. Il prend la place. N'est-ce pas ? Est-ce que tu veux bien bouger ? Tu me déranges. N'est-ce pas ? Donc, il y a dans l'amour un mouvement de rapprochement et d'éloignement. Et c'est ça qui se fait à l'infini. D'accord ? Bon, alors donc, je reviens ici donc, à Takadosh et Shivrakadosh. Tu es saint, et ton nom est saint. Ukdoshim b'cholyam yalou chasela. Et les saints te louent tous les jours, éternellement. Qui sont les saints qui louent éternellement l'Éternel ?
Les anges,
les anges ou les tzadikim ? C'est ça, ça peut se discuter. Effectivement.
Les anges n'ont pas de mérite de le faire.
Oui, les anges le font en permanence et quand les hommes ne le font pas. Il y a un passage du Zohar assez remarquable qui parle des anges qui doivent porter le trône céleste. Il y a un trône. La Merkava. Et ce trône doit être porté par les tzadikim, par des hommes. Mais il y a des moments où il n'y a pas de tzadikim qui sont capables de supporter le trône en question. Alors il y a des anges qui prennent leur place. Non, le problème c'est que la vie du tzadik est censée être le réceptacle du trône céleste. Mais parfois, il n'y a pas assez de tzadikim. Alors, les tzadikim sont remplacés par des anges. Les anges sont appelés les Hayot HaKodesh. Et les anges en question, ils ne sont pas faits pour ça. Alors, le Zohar dit qu'à cause de ça, ils transpirent. Il y a une sueur des anges. Et ils ont des larmes aux yeux, les larmes des anges. Et les larmes et la sueur se mélangent et deviennent des larmes de feu. Et ces larmes tombent dans le monde, et c'est pour ça qu'il y a des catastrophes sur Terre. Dans le Zohar.
La transpiration et les larmes,
elles viennent des anges. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ne sont pas faits pour ça. Ils font un travail pour lequel ils ne sont pas formés. Oui, il les a créés, mais il ne les a pas créés pour qu'ils supportent, pour qu'ils soutiennent son trône. Parce que ceux qui doivent soutenir le trône, ce sont les hommes. Voilà, en soutenant le trône, ils ont des difficultés, ils disent on n'est pas à notre place, c'est pas nous qui devrions le faire. Donc ils en souffrent, et cette souffrance des anges entraîne un désordre dans le monde. C'est quoi cette souffrance des anges ? C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre dans l'harmonie du monde. Vous avez compris ?
On est justiciaire alors.
Hein ?
On est justiciaire alors.
On est quoi ?
On a du souci.
Ah, on a du souci, vous, pour les anges ?
Non, mais oui. Pour nous, parce que là on n'a pas de télégame, parce qu'il y a un an au Japon, il y a de la nature.
Oui, effectivement. Donc il y a des bouleversements de la nature, c'est pas pour rien. C'est que les anges, ils ont pris le travail et puis ils savent pas très bien le faire.
Ouais.
Oui, c'est ça. On n'est pas. Il faut, le problème, c'est qu'il faut sortir de la normalité, enfin de la banalité, pour être ange. D'accord ?
Niveau historique, je ne peux pas trouver un peu de catastrophe naturelle.
C'est ça, c'est maintenant. Oui, oui. Et alors ?
Je ne peux pas trouver un peu de catastrophe naturelle.
Bah,
et
bon.
À l'époque du Gandhi, il n'y a pas eu de.
C'est-à-dire, il y a une chanson israélienne qui s'appelle The Ma'ot Shel Malachim, les larmes des anges. Et le refrain là-bas, c'est Kikshea Malachim Bochim Be'olam Acher, car lorsque les anges pleurent dans un autre monde, Az Ba'olam Haze Atsuv Lanu Yoter, alors dans notre monde, à nous, il est plus triste. Okay. Intéressant, je ne sais pas d'où est-ce que le poète israélien a pris ça, probablement qu'il a lu le Zohar ou un truc comme ça. Ouais. Oui. Oui. Oui, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon. Oui, Rabbi Shimon.
Mais est-ce que c'est un rôle, c'est-à-dire que ce personnage, par cette qualité du fait que le premier soleil se fausse, est-ce qu'il n'y a pas possible de porter tout
ça? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, en tout cas, on n'a fait que commencer. On continuera la prochaine fois. Shalom.